Bienvenue tout d'abord, je m'appelle Patrick Hudelot, je suis directeur adjoint de l'Institut d'astrophysique et je suis très heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre qui vient d'être rénové pour cette session de conférence dans le cadre de la fête de la science. Donc c'est la seule seconde conférence de la journée et elle sera présentée par Karim Ben Abed, donc, qui a obtenu sa thèse de doctorat en 2001 et qui a été recruté en 2005 à l'Institut d'astrophysique. Il travaille sur la cosmologie, c'est-à-dire l'étude des propriétés de l'univers dans son ensemble. Et il a participé à des grands projets spatiaux comme Planck et aujourd'hui Euclide. Donc je lui laisse la parole et je vous souhaite une très bonne conférence. Pardon, j'oublie toujours. Donc la conférence est filmée, à la fois la conférence et les questions. Donc si ça embête vraiment des gens, voilà, c'est pour vous prévenir de ce fait. Bonne conférence.
Merci Patrick. Vous m'entendez ? Je suis désolé, j'ai ma voix un peu rayée, je suis tout malade comme tout le monde. Donc merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de quelque chose qui nous excite beaucoup, nous autres cosmologues observationnels et cosmologues de façon générale, qui sont ces histoires de tensions cosmiques. En fait, pour parler de cette histoire, il faut que je revienne quelques années en arrière. Ça ne va pas être drôle si ça fait comme ça. Quelques années en arrière, avec l'arrivée des résultats finaux de l'expérience Planck. Je reviendrai dans tout ça. Mais je vais juste vous montrer trois choses qui ont marqué les esprits. Donc, en 2018, d'abord, ont été livrées à la communauté scientifique les données. En 2020, tous les papiers ont été acceptés. Et ces données ont consisté à observer le rayonnement de fond cosmologique à travers trois cartes. Une carte des anisotropies de température du rayonnement cosmologique, une carte des anisotropies de polarisation du rayonnement de fond cosmologique, et cette carte où on va relancer le machin parce que je pense que là, on a un problème. Ouais, c'est pas grave ça. Ça, c'est bon, mais ça devrait marcher mieux. Voilà. Une carte de toute la distribution de masse dans l'univers. Et ces cartes-là, on ne peut pas dire qu'elles ont exactement... Ah si, je crois qu'on peut dire qu'elles ont révolutionné la vision qu'on a sur notre univers, parce que l'analyse de ces cartes-là en termes de leurs propriétés statistiques, qui était ce qui intéressait avant tout les cosmologues, qui se résumait entre ces quelques points de données que vous voyez en rouge, qui montrent les propriétés statistiques de ces cartes seules ou jointes entre elles, s'accordaient incroyablement bien avec les prédictions d'un modèle extrêmement simple. Et nous permettait, pour la première fois, dans l'univers humain en tout cas, de mesurer les paramètres d'un modèle d'univers extrêmement simple, à une précision qui était au pire du pourcent, et dans la plupart des cas, vous voyez là, regardez pas encore les valeurs de tout ça, est-ce que ça veut dire, on va y revenir, mais on arrive à cette précision complètement dingue, où on est en dessous du pourcent, pour la mesure des grands paramètres qui définissent notre modèle d'univers. Non seulement on arrive à cette précision complètement folle, mais ce modèle cosmologique le plus simple, ce modèle standard, il représente, c'est une histoire qui date, qui a commencé quasiment au début du XXe siècle, et en fait, qui la mesure précise des paramètres de ce modèle d'univers particulier, ça remonte en gros à 25-30 ans. Et pendant ces 25-30 ans, on a eu une amélioration constante et constante et constante de nos contraintes sur le modèle cosmologique, sur les paramètres de ce modèle cosmologique. Et comme on le voit là, ce qu'on voit ici sont les points de mesure et les barres d'erreur, donc l'incertitude qu'on a sur chacun de ces paramètres. Et on voit, encore une fois, regardez pas les données, juste pour vous donner une impression de ce qui s'est passé à ce moment-là, on a cette compression de l'incertitude, on a une précision absolument folle sur ce modèle. Et en général, quand on fait ça en physique, ou à peu près n'importe où, quand on améliore à ce point-là la connaissance qu'on a sur un modèle, on se rend compte que notre modèle, qui est toujours qu'une approximation, est déficient d'une façon ou d'une autre. Et là, non. On est arrivé à 25 ans d'amélioration constante et constante et constante de la précision des paramètres du modèle, et la conclusion, c'était... En fait, non. Le modèle standard d'univers, le plus simple, c'est celui qui marche, c'est celui que veut ces données de Planck. Alors évidemment, ce n'est pas toute l'histoire, et à travers cette grande concordance sur ce modèle le plus simple, sont apparues des tensions qui nous font soit espéré, soit redouté, que notre modèle ne soit pas complet et qu'il faille encore l'affiner. Et c'est toute cette histoire que je vais essayer de vous raconter. Donc, comment on est arrivé à ces résultats incroyables, comment ils sont encore améliorés, ce qu'ils veulent dire, et où est-ce que ça coince, et où est-ce que dans les peut-être 10, 20 ans qui viennent, vous entendrez des nouvelles fracassantes, les astronomes sont contents parce qu'ils ont vu ça, parce qu'ils ont vu ça, parce que ces choses-là qui avaient l'air complètement fondées, assurées, etc., finalement, il y a peut-être de la nouvelle physique, de la nouvelle science derrière. Alors, ça c'était juste pour vous donner une impression. Moi, je voudrais revenir au fondement. Qu'est-ce que c'est que ce modèle ? Ce modèle, c'est le modèle du Big Bang. Ce modèle qui repose donc sur l'idée qu'il y a 14 milliards d'années, l'univers était dans une époque très très chaude, très très dense, et qu'à partir de ce moment-là, l'univers est entré en expansion. Ce modèle-là, il repose bien sûr sur les travaux d'Einstein, pour qu'il écrit l'environnement mathématique dans lequel on peut écrire ce modèle, les travaux de Friedman, Gamow et Lemaître, qui expliquent pourquoi cet univers doit rentrer en expansion, et donc pourquoi, s'il est en expansion aujourd'hui, il faut qu'il ait eu une phase très dense et très chaude auparavant, et qui justifie donc tout ce modèle. Donc ce modèle-là demande donc qu'au tout début de l'univers, il y a presque 14 milliards d'années, notre univers doit subir une période de croissance très très rapide, durant laquelle quasiment toute la scène se met en place. Et cette scène qui se met en place, c'est l'image d'un univers qui est extrêmement homogène, à très grande distance. Aujourd'hui, on voit un homogène qui est quasiment identique partout, mais qui connaît des toutes petites fluctuations. Et on a des théories physiques qui expliquent à la fois cette homogénéité aux très grandes échelles et ces toutes petites fluctuations. À cette époque-là, l'univers est extrêmement chaud, extrêmement dense, et puis, après une période d'expansion très accélérée, il continue période d'expansion très accélérée s'arrête, l'univers continue à s'étendre, il est très chaud, il est très dense, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à remplir l'univers, c'est-à-dire que l'univers va commencer à créer les premiers noyaux atomiques. À ce moment-là, l'univers est rempli d'un plasma, encore une fois, très chaud, très dense, qui est essentiellement un plasma de protons et d'électrons. Il n'y a pas encore beaucoup de noyaux très complexes. Et dans ce plasma de protons et d'électrons, les photons sont capturés. Ils sont en train d'interagir constamment avec les protons et les électrons. Les protons et les électrons se recombinent, ils émettent des photons. Ils prennent un photon sur la tête, ils se dissocient de nouveau pour refaire des ions et réémettre des photons, mais les photons, à chaque fois, ils ne peuvent pas aller très loin. Tout de suite, ils sont en interaction avec les protons et les électrons. Ils sont de nouveau recapturés par un noyau d'hydrogène qui vient de se créer. Et donc, en fait, l'univers est complètement opaque. L'analogie qu'on peut avoir, c'est ce qui se passe au centre de notre Soleil. Les photons qui sont au centre du Soleil sont capturés dans le plasma. Mais, donc, à ce moment-là, on a ces effets entre des protons et des électrons qui se recombinent pour faire de l'énergie d'hydrogène, qui émettent un photon, les photons qui sont capturés, etc., etc. Et donc ceci, ça se passe pendant à peu près 380 000 ans. Mais dans le même temps, l'univers est en train de s'étendre. Et au fur et à mesure que l'univers s'étend, eh bien en fait, l'univers est en train de se refroidir. C'est-à-dire que le plasma se refroidit, les photons qui sont émis sont de moins en moins énergétiques, de moins en moins chauds, jusqu'au moment où le photon qui est émis à l'occasion d'une recombinaison d'un proton et d'un électron va suivre son petit bonhomme de chemin et refroidit un petit peu, et refroidit juste assez pour ne plus avoir assez d'énergie pour aller rayoniser l'atome d'hydrogène d'à côté qui vient d'être créé. À ce moment-là, puisqu'il n'a plus assez d'énergie, notre photon, il n'y a plus rien qui l'empêche de se propager, donc il ne va pas interagir avec le noyau d'hydrogène, et l'univers, qui était un plasma qui était complètement opaque, devient brusquement transparent, et les photons sont émis dans tous les sens, dans toutes les directions. Et ce moment-là, c'est l'époque de ce qu'on appelle le rayonnement fond cosmologique. C'est à ce moment-là qu'il est émis. Voilà ce que dit notre modèle. Voilà ce qu'a observé le satellite Planck, et avant lui, de nombreuses autres missions, et on va y revenir. Et donc à ce moment-là, ces photons se propagent dans l'univers, dans toutes les directions. il leur arrive pas grand-chose jusqu'au moment où l'univers, maintenant qu'il avait été entièrement, qui était maintenant entièrement formé d'atomes neutres, finit par se rayoniser. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les atomes neutres qui étaient là sont groupés, ils sont allés se grouper aux endroits où il y avait un petit peu plus de matière. Petit à petit, ils ont construit des étoiles et des galaxies. Les premières étoiles et les premières galaxies se sont formées, les premières étoiles se sont allumées. Au moment où ces premières étoiles se sont allumées, eh bien, elles ont émis énormément de photons très chauds qui sont allés rayoniser ce gaz tout autour. De nouveau, l'univers devient un plasma, cette fois-ci très peu dense, qui va légèrement interagir avec nos photons du rayonnement de fond cosmologique. Et à ce moment-là aussi, l'univers s'allume. Cette époque-là, c'est l'époque qu'on appelle la rayonisation, et c'est l'époque que cherche à sonder, par exemple, un satellite comme JWST. Et puis, après cet événement-là, l'univers est de nouveau ionisé, mais avec un plasma beaucoup, beaucoup moins dense, où il y a finalement très peu d'interaction avec nos photons du rayonnement de fond cosmologique, et bien ceux-ci, ils se propagent gentiment vers nous. Ils ont été émis à peu près à 3000 degrés Kelvin, mais ils sont décalés vers le rouge par l'expansion de l'univers, et ils nous parviennent à 2,7 Kelvin aujourd'hui. Voilà ce que dit notre modèle. Ce modèle-là, c'est donc ce modèle du Big Bang qui repose sur l'idée qu'il y a eu une étape très dense, très chaude, éventuellement avec, une expansion très accélérée au début, et sur le fait que l'univers est en expansion. Alors ce modèle, il a l'air un peu baroque, mais il répond à énormément de questions. Donc, un des éléments importants de ce modèle, c'est qu'il intègre naturellement le fait que l'univers soit en expansion. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que l'univers est en expansion? Eh bien, ça, c'est le résultat des travaux du début du XXe siècle, entre autres de Hubble, mais pas seulement, où à cette époque-là, on ne savait même pas encore ce que c'était que ces espèces de nébulosités qu'on voyait dans l'univers. On ne savait même pas si elles faisaient partie de notre galaxie, qu'on n'appelait pas encore une galaxie, ou si elles étaient au-delà de notre galaxie. Et à cette époque-là, donc, on se posait la question de où sont-elles, à quelle distance sont-elles. On essayait de mesurer leur distance. On avait beaucoup de mal à mesurer leur distance parce qu'elles étaient très lointaines. Mais grâce aux travaux... grâce aux travaux de plusieurs chercheurs, entre autres Slipher, qui a mesuré leur spectre, on a pu déterminer qu'elles s'éloignaient de nous extrêmement, vraiment très très vite. Et grâce aux travaux de Leavitt, qui a pour la première fois compris que certaines étoiles variables avaient leur luminosité intrinsèque qui était liée avec la période de variabilité, on a pu mesurer leur distance. Cette étoile s'appelle Céphéide. Et on s'est rendu compte que ces nébulosités qui étaient très lointaines, déjà pouvaient difficilement être dans notre galaxie, mais en plus de ça, s'éloignaient de nous et s'éloignaient de nous d'autant plus vite qu'elles étaient lointaines. Alors un effet équivalent à un effet Doppler. Et ça, c'est ça qui a donné lieu à notre compréhension de l'expansion de l'univers. Donc ce qu'on voyait, c'était exactement ça. Les galaxies lointaines voient leur couleur qui est décalée vers le rouge. Un peu comme quand on entend une ambulance qui s'approche vers nous, on l'entend plus aigu, plus bleu, si c'était de la lumière, et quand elle s'éloigne de nous, on l'entend plus grave, plus rouge, si c'était de la lumière. Donc ça, c'est encore un pilier important de ce modèle. Mais pas seulement, ce modèle du Big Bang, etc., qui au début semblait extrêmement bizarre, il répondait à une autre questionnement. On a nos chercheurs de l'époque qui se disaient, mais mon Dieu, on voit de l'hélium sur Terre, c'est ça pour gonfler les ballons, entre autres, mais cet hélium, comment diable peut-il être formé? Alors, on commence à dire, il se forme au sein des étoiles par réaction thermonucléaire. Seulement, voilà, on n'arrive pas à le former au cœur des étoiles. Il fallait donc que l'hélium ait été formé dès le début. Et la seule façon d'avoir cet hélium formé dès le début, c'était d'avoir un modèle d'univers très dense et très chaud dès le début. Et bingo, quand on commence à mesurer combien d'hélium on pense qu'il devait y avoir au début dans l'univers, en mesurant combien d'hélium on trouve sur Terre, tout simplement, combien d'hélium on voit autour de nous, pardon. Ça va un peu trop vite. Je reviens à mon hélium. et qu'on prédit combien on doit avoir d'hélium dans l'univers, eh bien on trouve des valeurs qui sont tout à fait comparables. Et donc on sait, ça veut passer à tout prix, on sait que ce modèle du Big Bang a l'air de bien marcher. Donc autre test évidemment de ce modèle du Big Bang, c'est donc de dire que s'il y a eu ce Big Bang, l'univers était très chaud et très dense, donc toute cette histoire du rayonnement fond cosmologique, tout ça, on doit le voir comme un corps noir à 2,7 Kelvin, un peu comme la surface du Soleil, mais qui serait à 2,7 Kelvin. C'est une façon de voir la première lumière de l'univers, et ça, on l'a vu. Une première fois, Penzias et Wilson l'ont vu, ce qui leur a valu un prix Nobel en 1978. Ils ne s'attendaient pas à voir le rayonnement fond cosmologique. Ils ont compris qu'ils étaient en train de voir le rayonnement fond cosmologique en discutant avec leurs collègues de Princeton, qui eux cherchaient à le voir, mais n'arrivaient pas à le voir avec, avec leurs instruments. Et puis, ce rayonnement fond cosmologique, il a été vu aussi, bien sûr, par le satellite Kobe, qui avait eu un prix Nobel à ses promoteurs en 2006. D'ailleurs, petite chose un peu triste, M. Smoot, qui est à gauche sur cette image, est malheureusement décédé il y a quelques semaines, qui est un des promoteurs du satellite Kobe, qui a mesuré complètement les propriétés du corps noir du rayonnement fond cosmologique, montrant encore une fois que ce modèle tenait extrêmement bien. Et puis, il a été réobservé de nombreuses fois ce rayonnement fond cosmologique, et on le voit, on l'a vu encore récemment, jusqu'en 2020, avec Planck, et on y reviendra. Donc ce modèle, il a beaucoup de choses qui font qu'il est très solide. Ce modèle, il faut encore le compléter, parce qu'au point où on en est là, on a juste dit qu'on a un modèle d'univers qui repose sur l'idée d'un Big Bang, d'une époque très dense, très chaude, etc., etc., avec une expansion. Mais il faut encore dire ce qu'il y a dans cet univers. Et quand on commence à dire ce qu'il y a dans cet univers, la première chose qu'on dit, c'est qu'il y a de toute évidence quelque chose que nous, les astronomes, appelons des baryons, c'est-à-dire de la matière, tout ce qui est de plus classique. C'est la matière qui fait des étoiles, qui nous fait nous, et on peut compter combien il y en a. Et puis, quand on commence à regarder les courbes de rotation des galaxies, et puis aussi quand on essaie d'analyser les données, qu'on essaie de peser la quantité de matière dans l'univers, on se rend compte que il faut encore plus de matière, et donc on invente ce concept de matière noire qui est indispensable pour remplir notre univers. Et puis ça, c'est pas encore assez, parce que ça donne un univers qui a différentes propriétés, et en particulier qui prédit une certaine évolution pour l'expansion de l'univers. Et le dernier point, pour finir le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait que cet univers doit aussi contenir ce qui s'appelle de l'énergie sombre. À la fin des années 90, Ries, Perlmutter et Schmidt s'étaient mis en tête d'aller observer des explosions de supernovae de type 1A. Donc c'est ce qui est représenté ici, c'est un truc assez fou, avec une binaire dont un des compagnons est en train de voler du gaz à l'autre jusqu'à exploser. Et cette explosion est a toujours les mêmes propriétés. Si bien que si on observe la courbe de lumière, la façon dont cette explosion se passe, où il y a énormément de lumière qui est émise, puis ensuite la quantité de lumière qui est émise descend, eh bien ça se passe toujours de la même façon. Si bien que quand on en voit une, on est capable, en regardant la montée puis la descente de cette courbe, de savoir à quelle distance absolue elle est. Mais en le reliant au décalage vers le rouge, on est capable, si on voit de ces objets-là assez lointains, de se poser la question de l'histoire de l'expansion. Et quand on se pose la question de l'histoire de l'expansion, on se rend compte que notre modèle du Big Bang, d'un univers rempli de matière, il ne tient pas, et que pour avoir l'accélération de l'expansion telle qu'on la voit aujourd'hui, il faut rajouter un type d'énergie supplémentaire qu'on ne connaît pas encore, qui est l'énergie sombre, et qui force l'accélération de l'expansion de l'univers. Si vous avez vu, Clotilde a parlé tout à l'heure, je crois, si vous avez vu la présentation de Clotilde, elle vous a présenté le satellite Euclide, dont le but est de comprendre les propriétés de cette énergie noire. Moi, je vais juste m'arrêter au fait qu'il faut de l'énergie noire. Donc voilà quel est le modèle que je voulais mettre en place. Notre modèle, c'est celui du Big Bang, qui va émettre notre rayonnement fond cosmologique, qui va créer l'hélium dont on a besoin, qui est un univers en expansion, avec rempli principalement d'énergie sombre, qui crée une accélération d'expansion, de matière noire, et puis d'un peu de baryon. Et c'est ce modèle-là qui est testé par ce genre d'image. Et c'est ce modèle-là qu'a expliqué, qu'a mesuré Planck. Alors si on veut rentrer un peu plus dans les détails, je voudrais qu'on parle un peu de ces images que je vous ai montrées comme ça plusieurs fois. J'ai commencé par vous dire que le rayon de fond cosmologique, c'était un peu comme la surface du Soleil, c'était un corps noir, que tout ça était très homogène. En fait, c'est vrai. La première chose qu'on voit quand on regarde le rayonnement de fond cosmologique, c'est un rayonnement qui est quasiment identique dans toutes les directions. Mais quand on enlève cette partie constante, on se rend compte qu'il y a des toutes petites variations de température. Il y a des directions, et c'est ce qui est présenté ici. Vous voyez que ces variations de température sont extrêmement petites, on est à 0,002 Kelvin à peu près, par rapport à la température du rayonnement de fond cosmologique, qui elle-même est déjà très petite, puisqu'on est à 2,7 Kelvin. Donc quand même quelque chose qui est beaucoup plus petit. Et quand on enlève donc cette partie à 2,7 Kelvin, on voit ces toutes petites anisotropies de température. En fait, ce sont la signature des inhomogénéités primordiales, et ça, c'est ce qu'a mesuré avec une très très grande précision le satellite Planck, et ça, ça nous apprend énormément de choses. En fait, ces inhomogénéités de température, elles correspondent à des zones où il y avait un tout petit peu plus de matière, ou un tout petit peu de moins de matière. Ces zones qui étaient un peu plus denses, ou un peu moins denses, eh bien, elles ont évolué ensuite par l'effet de la gravité, pour construire, comme on voit sur cette simulation numérique là-haut, toutes les grandes structures qu'on voit dans l'univers, l'organisation, les galaxies entre elles, ces galaxies qui se regroupent, qui forment des filaments, etc. Pour que ceux-ci surviennent, il fallait qu'au début, il y ait toutes petites inhomogénéités, et ces toutes petites inhomogénéités, elles ont été créées dans cette toute première étape de l'univers. Je vous ai dit cette étape d'expansion extrêmement accélérée de l'univers, qui a laissé des traces qu'on voit dans le rayonnement de fond cosmologique, 380 millions après le Big Bang, sous la forme de ces toutes petites changements de température, et qu'on réobserve aussi sous la forme de l'organisation des galaxies dans l'univers. Si on regarde encore plus en détail, on peut classer ces tout petits changements de température entre ce qui se passe aux grandes échelles, si on lisse très fortement cette carte, et ce qui se passe aux petites échelles. Pourquoi est-ce qu'il faut les séparer en deux ? Parce que ce qui se passe aux grandes échelles correspond à des échelles plus grandes que l'horizon caudal à l'époque de la recombinaison. Ça veut dire que ce sont des fluctuations qui sont réellement primordiales. La lumière n'a pas eu le temps d'aller d'une de ces fluctuations à l'autre, ou en d'autres termes, s'il y avait une différence de température ici et là, eh bien ces zones-là n'ont pas eu le temps d'interagir entre elles pour que la température s'équilibre. Ces choses-là ont été créées vraiment au tout début de l'univers, et on les voit telles quelles. Et puis il y a des plus petites échelles, en fait, qui se passent, eh bien, c'est ce qui se passe à l'intérieur de chacun de ces blobs. Et ça, ça nous apprend des choses sur le contenu de l'univers, et sur la façon dont il a évolué. Alors, on pourrait rentrer dans un plus grand détail. Toujours est-il que ces courbes que je vous montre depuis le début, ce que mesure Planck à la fin, encodent toute cette information. Et ce qui nous intéresse, c'est essentiellement le grand plateau qui est à gauche, là, qui est identifié sous le nom Sachs-Wolfe, et puis ces oscillations-là. Et dans ces courbes-là, est encodé énormément d'informations. Et on peut le voir de façon amusante ici, où on s'amuse à prendre ces courbes-là et à faire varier chacun des paramètres qui décrit notre univers. Alors ces paramètres, les deux là-haut, ils correspondent essentiellement à la hauteur de cette courbe et sa pente globale. Et ça, c'est des paramètres vraiment primordiaux. Et puis tous les paramètres qui sont en dessous, donc ce sont les grandes échelles dont je vous parlais, et tous les paramètres qui sont en dessous, ils correspondent à ce qui se passe dans chacun de ces blobs-là, et vous allez voir qu'ils vont changer la fréquence des oscillations. À gauche, là, vous voyez que les oscillations se décalent comme un accordéon. Ils vont changer la hauteur globale de ces oscillations, mais sans changer la pente de la courbe, ils vont changer la différence entre chacun des pics. Vous voyez que ces pics d'oscillation ont des hauteurs légèrement différentes. Et c'est justement parce que chacun de ces paramètres change cette courbe de façon un peu différente que si on est capable de mesurer cette courbe avec Planck, avec toute cette précision-là, on est capable de contraindre ainsi notre modèle extrêmement bien. Je vous ai dit qu'il y avait trois cartes dans les observations de Planck. J'ai parlé de la carte de température et je vous ai montré comment cette carte de température nous permettait d'obtenir des informations sur notre modèle d'univers. Le rayonnement qu'on reçoit est aussi légèrement polarisé. Alors, cette polarisation, elle vient du fait que le rayonnement qui était émis n'était pas vraiment polarisé, mais en fait, comme on a des directions où on a un peu plus de rayonnement qui arrive et d'autres un peu moins de rayonnement qui arrive, et bien on arrive à créer un léger excès de polarisation. Et ce léger excès de polarisation, c'est aussi quelque chose que Planck a vu. On voit ici cette carte des excès de polarisation. Et de la même façon que pour la température, on a des courbes, je vous les ai montrées tout à l'heure, et que suivant, quand on varie les paramètres, les propriétés de ces courbes varient de façon différente, on est capable aussi d'extraire énormément d'informations de ces courbes-là. Et puis la dernière carte que je vous ai montrée, c'est la carte de l'effet de l'antigravitationnel. Le rayonnement fond cosmologique nous parvient, ces photons, il leur arrive, je ne vous ai dit pas grand-chose, à part un peu d'interaction au moment de la rayonisation. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Les photons du rayonnement fond cosmologique, comme tous les photons qui nous parviennent de l'univers, ils vont pour eux en ligne droite. Mais ce qui est la ligne droite pour eux, eh bien, dépend des puits de potentiel gravitationnel qui sont autour. Chaque fois que ces photons, que le trajet de ces photons s'approche du puits de potentiel gravitationnel, donc de masse très très dense, eh bien leur trajet va être très légèrement dévié. C'est ce qu'on voit ici sur cette image, où on imagine le rayonnement de fond cosmologique. On a mis en avant-plan de cette image une simulation numérique de la répartition de la matière dans l'univers, et on a exagéré les petites déflexions des trajets des photons. Pour eux, ils vont en ligne droite, mais pour nous, on va avoir une image qui est légèrement floutée. Cet effet, il est assez connu, vous avez sans doute entendu parler, sous la forme des anneaux d'Einstein, comme on montre ici. C'est un exemple très très chouette, mais il faut pour cela qu'un alignement parfait entre la source, la répartition de masse qui fait une lentille, et nous, l'observateur. Dans ce cas-là, la lumière passe de tous les côtés à la fois, on voit ce bel anneau. Ici, ce n'est pas ce qu'on va voir là. Ici, c'est toute la matière dans l'univers qui va créer une déflexion collective qui va légèrement flouter l'image. Alors, même si cette image est floutée et qu'on ne connaissait pas l'image au départ, on est quand même capable de reconstruire des informations sur l'image au départ et de reconstruire des informations sur la façon dont elle est floutée. Ce que vous voyez là, c'est le fond d'une piscine. En général, dans une piscine, vous avez un dallage qui est régulier. Vous voyez qu'ici, vous le voyez comment déformé par les effets de distorsion qui sont dus aux turbulences de la piscine. Eh bien, si je vous dis maintenant que le dallage était régulier, même si je ne vous dis pas si le dallage était rectangulaire, carré, les tailles du dallage, on n'en a pas besoin pour reconstruire une partie de l'information de la turbulence qui a créé cette déformation-là. Vous ne pouvez pas tout reconstruire, mais vous pouvez en reconstruire une grande partie juste en connaissant des propriétés de régularité du départ. C'était un dallage régulier. Point. Eh bien, le rayonnement fond cosmologique, c'est à peu près la même chose. Il est déformé, on ne connaît pas l'image au départ, mais comme on connaît une partie des propriétés de régularité de cette image, qu'on peut déduire du modèle, eh bien, on est capable de reconstruire une partie de ce qui a créé la déformation, et donc de construire aux grandes échelles cette carte qui contient toute la matière dans l'univers. Alors, c'est bien sûr toute la matière dans l'univers autour de nous, et c'est évidemment toute la matière dans l'univers intégrée dans chaque direction. Puisque tout ce qu'on voit, c'est ce rayonnement fond cosmologique qui a vécu, qui a subi plein de distorsions jusqu'à arriver jusqu'à nous. Donc, je vous l'ai dit, ces cartes sont déjà extrêmement intéressantes en tant que telles, parce qu'on peut déjà faire beaucoup de choses dessus. Mais ce qui nous intéresse au premier chef, c'est de déduire ces courbes. Je vous ai rapidement évoqué comment elles représentaient des informations sur ce qui se passe aux très grandes échelles dans l'univers, qui a été encodé dans l'univers à sa création à ses tout premiers instants. Et puis comment la partie droite de ces courbes correspondent aux échelles plus petites, correspond à ce qui se passe un peu dans l'univers causalement connecté, et nous donne une information, entre autres, sur le contenu de l'univers. Comment ces oscillations nous apprennent de quoi est constitué l'univers. Et ce sont donc toutes ces oscillations et tout ce modèle-là qui nous permettent de contraindre l'univers, comme je vous l'ai, les propriétés du modèle de l'univers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, avant de continuer encore sur pourquoi tout ça, ça a été une révolution, je voulais revenir un pas en arrière et donc rappeler l'historique. Je vous ai dit, les premières observations, c'était Penzias et Wilson avec leur antenne dans les années 60, puis Kobe, des observations au sol avec des ballons, dont le ballon boomerang ici a été aussi une révolution parce que ça a été une mesure à l'époque où Schmidt, Saul et Perlmutter découvraient qu'on avait besoin d'avoir une expansion accélérée de l'univers. Et c'était justement la confrontation entre les résultats de Ries, Saul et Perlmutter et les premiers résultats de boomerang qui nous ont permis de construire ce modèle qui a besoin d'avoir une énergie sombre. Et puis, les données de WMAP qui a été, pour beaucoup de choses, un précurseur de Planck. Et puis, bien sûr, je vais vous dire quelques mots sur Planck. Alors, voici Monsieur Planck en train de faire du sport. C'est un jeu de mots en anglais, puisque c'est Planck Planking, il fait la planche. Mais voilà le Planck dont je vous parle. Alors lui, il ne faisait pas la planche. Il a été conçu dans les années 90, lancé en 2009. C'est très long, ces affaires-là. Et puis, il a été désorbité en 2013. C'était un projet avant tout européen de l'ESA, avec une très forte contribution française, auquel l'IAP était fortement associé, puisqu'on était responsable de l'analyse de données et d'une grande part de l'analyse scientifique d'un des instruments de la mission. Ce satellite, en fait, c'était un observatoire qui était dédié à l'observation du rayonnement fond cosmologique, qui faisait que ça. Pour cela, il avait un télescope d'environ 1,50 m, comme ça, pour le primaire. Et puis, il était équipé d'une caméra qui était une caméra mais incroyablement puissante, de toute dernière génération, qui avait 100 pixels. Ah oui, c'est beaucoup. Et encore, sur les 100 pixels, il n'y en avait pas plus de 8 qui avaient la même couleur. Et ça, c'était important d'avoir des couleurs différentes. Donc c'était quand même un truc vachement bien. Bon, évidemment, on fait un peu mieux maintenant. Ça n'a aucun rapport avec votre téléphone portable, mais imaginez qu'avec ces 100 pixels, on a fait toutes les cartes que je vous ai montrées là, en baladant sur le ciel. Alors justement, comment est-ce qu'on a fait avec ces 100 pixels ? Eh bien, tout simplement, on a observé des anneaux, et puis un anneau après l'autre, on a doucement reconstruit des cartes du ciel, et on a ainsi pu reconstruire 4 ciels complets pour l'instrument HFI et 8 ciels complets pour l'instrument LFI. La raison pour laquelle on a fait plus avec un des deux instruments, c'est celui qui est autour là. HFI, c'est celui qui est entouré en rouge, LFI, c'est celui qui est autour. C'est que HFI, c'était l'instrument le plus incroyable parce qu'il avait besoin, comme JWST aujourd'hui, d'être refroidi activement avec une dilution entre deux isotopes d'hélium, l'hélium 3 et l'hélium 4, et qu'à l'époque, on ne savait pas faire ça. Donc il faut mélanger l'hélium 3 et l'hélium 4, et ça crée un refroidissement. Mais une fois qu'ils sont mélangés, on ne savait pas encore démélanger l'hélium 3 et l'hélium 4 dans le satellite, si bien que une fois qu'on avait mélangé tout l'hélium 3 et l'hélium 4, c'était fini. Et la fille n'avait pas besoin de travailler aussi froid, et donc il a pu travailler un peu plus longtemps. Alors pourquoi on a voulu observer plusieurs fois le ciel, c'est qu'à chaque fois qu'on observe le ciel, c'est quand même très difficile, hein, c'est quelque chose de très très froid, on veut observer des photons avec 2,7 Kelvin, et ce qui nous intéresse, c'est pas d'aller à 2,7 Kelvin, c'est d'aller à une fraction de 2,7 Kelvin pour voir ces petites différences de température. C'est pour ça qu'il fallait refroidir jusqu'à 0,1 K. Et donc à chaque fois, on avait un peu de bruit, et en combinant des cartes qui voyaient le même ciel et un bruit différent, eh bien, on réduisait la quantité de bruit. Et donc je vous ai dit, cette mission a fait plusieurs livraisons de données, dont la dernière s'est déroulée entre 2018 et 2019, avec une validation complète des résultats en 2020. Ces instruments nous ont permis d'observer le ciel dans de nombreuses fréquences, donc de nombreuses couleurs, si vous voulez. Donc maintenant, chacune de ces images a au maximum 4 pixels, pour l'observer. Enfin, 8 pixels et seulement 4 si elles sont polarisées, parce qu'il faut observer dans trois directions différentes. Ces cartes, comme vous le voyez, sont avant tout perturbées par ce gros machin qui est au milieu, qui est très fort, qui est notre galaxie, qui a le mauvais goût d'émettre des photons dans les fréquences radio qui sont là-haut, entre 30 et à peu près 100 GHz. Notre galaxie a aussi le mauvais goût d'être remplie de poussière, qui est chauffée par toutes ces étoiles qui émettent des tonnes d'ultraviolets, qui a aussi le mauvais goût d'émettre dans les micro-ondes entre 100 GHz et 857 GHz. Mais comme on a pu observer le ciel dans toutes ces fréquences et que vous voyez bien que dans chacune des fréquences, la quantité de photons venant du rayon de fond cosmologique et de la galaxie a l'air d'être différent, en étant malin, on a pu séparer ces différentes émissions pour reconstruire ce qu'il y avait sous ce masquage de la galaxie et reconstruire quasiment tout le ciel pour voir nos cartes du rayonnement de fond cosmologique. Et c'est donc avec ça qu'on a eu cette amélioration incroyable. Alors je vous ai promis des tensions, parce que là pour l'instant je vous ai juste dit le modèle il est parfait et on a beau creuser, tout va bien. Alors on a beau creuser, tout va bien. Parmi tous ces paramètres qu'on a incroyablement améliorés, il y en a un qui est vraiment le truc de base. C'est la constante de Hubble. La constante de Hubble, c'est celle qui nous dit comment fonctionne l'expansion aujourd'hui. C'est ce qu'on mesure depuis le début du XXe siècle. Hein ? C'est un truc qui a l'air tout bête. Et bien alors ça, c'est là, à l'endroit où on ne s'y attendait vraiment pas, qu'est arrivée la surprise. Ce que je vous montre là-haut, eh bien, c'est comment la valeur de cette constante de Hubble a évolué au cours du temps, au fur et à mesure qu'on a amélioré les mesures du rayonnement de fond cosmologique. Donc, je vous ai dit, WMAP, c'était le satellite dont je vous ai parlé, qui était un précurseur de Planck. Avant, après WMAP, c'était essentiellement le ballon boomerang dont je vous ai parlé. Et vous voyez comment ça s'améliore, et les barres d'erreur réduisent. Mais le point, il est à peu près tout le temps au même endroit. Il a bougé un peu, mais par rapport à l'incertitude qui est montrée par ces barres d'erreur, il n'a pas vraiment bougé. Ce que vous voyez en bas, c'est la même chose. Alors, en bas, là, le bleu, c'est le rayonnement de fond cosmologique. Et là, en haut, ce que vous voyez là-haut, c'est ce qu'on observe quand on fait ce qu'on fait depuis le début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on regarde des galaxies, on mesure à quelle distance elles sont, on voit à quelle vitesse elles s'éloignent, et la valeur, mais c'est pas la même. Alors, au début, c'est pas la même, mais les barres d'erreur sont très grandes. Mais plus on avance dans le temps, plus nos collègues astronomes qui observent ces galaxies, mesurent leur vitesse, mesurent leur distance, c'est des choses très compliquées à faire, hein. Ils sont de plus en plus sûrs d'eux. Parmi les gens qui font ça, il y a M. Ries, qui a eu le prix Nobel en observant des supernovae. Une des raisons d'observer ces supernovae, c'est justement d'améliorer cette mesure de la constante de Hubble proche. Et ces deux mesures, elles sont de plus en plus en plus en plus en plus en plus en désaccord. On a donc un problème assez fondamental. Ces mesures locales, elles mesurent directement la vitesse à laquelle nos galaxies s'éloignent, donc l'expansion aujourd'hui. Les mesures de Planck, ce qu'elles font, c'est qu'elles mesurent tous les paramètres de l'univers. On dit, voilà le modèle de l'univers, je vous l'ai décrit, voilà quels sont les paramètres qui sont dedans. Bah, une fois que j'ai le modèle d'univers et ses paramètres, je suis capable de calculer toute l'histoire de l'expansion de l'univers, et en particulier de la calculer aujourd'hui, de calculer la valeur de la constante de Hubble aujourd'hui. Et ces deux choses sont en désaccord assez marqué. Alors, pour revenir à ce désaccord, il faut que je vous rappelle que c'est très compliqué de mesurer les distances de nos galaxies. Pour mesurer les distances des galaxies, on commence justement par utiliser, grâce à Henrietta Leavitt, ces étoiles variables qu'on appelle des céphéides, dont je vous ai dit, leur luminosité dépend de la façon dont elles fluctuent. Et ça, on le sait depuis le début du XXe siècle. Mais c'est grâce à ces céphéides et à la comparaison donc avec les décalages vers le rouge à cette époque-là qu'on a pu faire des courbes comme ceci, qui sont la loi de proportionnalité entre la distance et le décalage vers le rouge, qu'on a déterminé l'expansion de l'univers. C'est quelque chose donc de très fondamental dans notre modèle. Hein. Donc ça, je vous ai dit que ça revient à ça. C'est à partir de ça que Hubble a pu mesurer sa loi. C'est à partir de ça aussi que, de façon parallèle, le maître a construit un modèle d'univers en expansion et a aussi mesuré à peu près la même loi. C'est donc pour ça qu'on a qu'on voit notre expansion de l'univers. Et puis, depuis cette mesure, depuis donc le début du XXe siècle, depuis les années 20, on s'est empressé d'essayer de mesurer de mieux en mieux en mieux en mieux cette expansion de l'univers. Vous voyez ici comment les données ont évolué. Vous voyez qu'en gros, depuis les années 80, certes, il y a beaucoup de variations, mais on a quand même énormément amélioré les choses. En fait, si le satellite Hubble s'appelle le satellite Hubble, c'était pour honorer, bien sûr, l'astronome Hubble, mais c'était aussi parce que un des grands programmes du satellite Hubble, c'était justement de contribuer à mesurer la constante de Hubble. Donc c'est une histoire qui est extrêmement longue et qui aujourd'hui culmine avec une méthode de mesure extrêmement compliquée qui repose sur la détermination très très propre de la distance à des galaxies très proches avec des effets tout simplement de parallaxe, comme le géomètre. Les galaxies sont proches, donc on voit des angles légèrement différents. Dans ces galaxies très proches, il faut qu'on trouve des céphéides, celles qui ont été comprises par Henrietta Leavitt. C'est la première étape de cette longue histoire. Ensuite, une fois qu'on a calibré la luminosité intrinsèque des céphéides, on peut aller voir des galaxies un peu plus lointaines, dans lesquelles on va voir d'autres céphéides, dont on ne peut pas mesurer, qui vont nous donner la distance de ces galaxies. Et puis dans ces galaxies-là, on espère voir des explosions de supernovae de type 1A pour calibrer la façon dont fonctionnent ces explosions de supernovae de type 1A. Et puis après, encore plus loin, on va essayer de voir des explosions de supernovae de type 1A pour avoir leur distance et encore une fois le décalage vers le rouge de leur galaxie hôte afin de construire cette courbe ici qui nous donne directement la loi de Hubble et éventuellement aussi l'accélération de l'expansion de l'univers quand on va à des temps encore plus lointains. Et donc énormément de travail là-dedans, de nombreuses équipes, certaines avec des Nobel, ils sont tout à fait sur deux. Et donc, on reste avec cette question. Comment se fait-il que ces données du rayonnement fond cosmologique qui nous mesurent tout le modèle et ces observations de céphéides, d'explosions supernovae, nous donnent un tel désaccord? Alors évidemment, nos collègues théoriciens sautent sur le problème et disent « Ah, votre modèle, il n'est pas bon !» Évidemment qu'il y a un problème, enfin, sans doute un problème dans le modèle. Mais alors le truc, c'est qu'ils ont beau chercher, ils inventent des tonnes et des tonnes et des tonnes de modèles. Et le but du jeu, vous voyez, ça, en jaune, à gauche, c'est la mesure c'est la prédiction de la valeur de la constante de Hubble à partir du modèle mesuré par Planck. À droite, en haut rose, c'est ce que nos amis qui observent des supernovae proches, des céphéides et des supernovae proches aimeraient avoir comme valeur. La taille des bandes, ce sont les incertitudes. Vous voyez que déjà, on est vraiment trop loin. Il n'y a pas photo, on est vraiment trop loin. Et tous les points noirs, là, c'est des changements du modèle. Alors, c'est des nouvelles données par rapport à Planck, dont la première ligne là-haut, ça correspond au modèle de base. Avec une énergie sombre très simple et les ingrédients dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez qu'avec des nouvelles données, on bouge un peu par rapport à la valeur de Planck, on réduit un peu l'incertitude, malheureusement, mais ça ne bouge pas tant que ça. Et toutes les autres lignes, on rajoute des ingrédients au modèle. Des neutrinos bizarres qui ont des masses, des neutrinos bizarres qui ont des masses bizarres, des neutrinos en plus que ceux auxquels on pourrait penser. Une énergie sombre très très tôt, un univers qui n'est pas plat, enfin énormément de choses. Vous voyez que j'ai entouré en vert les quelques modèles qui réussissent à pousser un petit peu la valeur de Hubble vers la ligne rose, mais en fait, s'ils réussissent à pousser, ils réussissent surtout à augmenter notre incertitude. On rajoute des ingrédients à notre modèle, donc on a plus de choses à apprendre avec toujours autant de données, donc évidemment, notre incertitude augmente, et ça nous permet d'améliorer un peu les choses. À droite, c'est un truc un peu compliqué, mais en gros, regardez juste la couleur de la barre. C'est un critère statistique qui nous dit, est-ce que avoir un point noir là et une ligne rose là, ça veut dire qu'il y a vraiment un désaccord ou pas? Quand c'est vert, c'est qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment un désaccord. Vous voyez, on a du mal à avoir des choses vertes. Et ça, c'est le résultat de centaines, littéralement, d'articles de chercheurs, de théoriciens, qui essaient de trouver des modèles. Ils ne peuvent pas faire complètement n'importe quoi. Il y a énormément de données qui contraignent ce qu'on peut faire. Il y a aussi les lois de la physique qui contraignent ce qu'on peut imaginer comme modèle. On ne peut pas imaginer vraiment n'importe quoi. Mais en rajoutant, des ingrédients, on n'arrive pas à trouver une façon de réconcilier les deux. Alors une autre façon de faire, évidemment, c'est de dire, bon, ben, vous avez arrêté ces bêtises. De toute façon, j'ai dit au début que ces résultats, c'était en comparant les observations du rayonnement fond cosmologique telles qu'on les a vues par Planck, que jusqu'à présent, il n'y avait pas de problème. C'est l'amélioration des contraintes grâce aux données de Planck qui sont réputées plus précises. Ben, si ce n'est pas en accord avec les résultats de mesure de la constante de Hubble proche, c'est que Planck s'est trompé. Évidemment. Alors une façon de vérifier si Planck s'est trompé, c'est de voir si elle est d'accord avec d'autres sondes. Alors à droite, je vous ai mis une sonde très simple, c'est que dans le cadre de ce modèle où j'ai mesuré tous les paramètres, où j'ai tout le modèle, ben je peux refaire l'exercice de dire combien est-ce que je dois voir d'hélium et combien je vois d'hélium en mesurant la quantité d'hélium qu'on a sur Terre dans le système solaire, etc. Et ça, c'est la barre rouge. Et les bandes de couleurs là nous donnent les observations qu'on a locales. Et ces deux choses-là sont d'excellent accord. Donc encore une fois, on retombe sur le fait que le modèle du Big Bang, il veut vraiment bien marcher, il nous prédit combien on a d'hélium, et quand on améliore énormément les contraintes avec Planck, on a la quantité d'hélium auquel on s'attend. Une autre façon de tester ça, il y en a plein d'autres, mais une autre façon de tester ça, c'est d'aller voir comment sont organisées les galaxies, c'est d'aller voir ces affaires qu'on appelle les oscillations baryoniques. Alors je vais passer un petit peu de temps, je vais enlever mon petit bonhomme qui monte là avec l'hélium. Allez, on s'en va. Okay. Une autre façon de voir ça, c'est donc d'observer où sont les galaxies et à quelle distance elles sont les unes des autres. Je vous ai dit, ce rayonnement de fond cosmologique, ce que je vois là, c'est, aux petites échelles, ce qui se passe dans chacun de ces grumeaux. Okay. Et en fait, non seulement je sais ce qui se passe dans chacun de ces grumeaux, mais la distance entre chacun de ces grumeaux, je sais la prédire dans mon modèle. Les galaxies, je vous ai dit, elles sont le résultat de ces grumeaux qui attirent de la matière autour d'elles. Et donc on s'attend finalement à ce que ben, les galaxies, elles soient ben, soit à l'intérieur d'un grumeau, soit entre deux grumeaux. Cette distance entre deux grumeaux, on la lit directement dans le rayonnement fond cosmologique. Cette distance entre deux grumeaux, on devrait pouvoir la voir aussi en observant à quelle distance sont les galaxies les unes des autres. Et ça marche. Alors, cette image-là, elle est évidemment, c'est une image synthétique, c'est pas une vraie image, mais l'image, c'est un petit peu ça, en fait. Quand on regarde l'univers, qu'on prend une galaxie, et qu'on regarde à quelle distance les galaxies sont les unes des autres, alors, soit elles sont très proches, je suis dans le même grumeau, soit elles sont à une distance caractéristique, qui est le grumeau d'à côté. Et j'ai mesuré cette distance dans le rayonnement de fond cosmologique. À vrai dire, la taille des oscillations, l'écart entre ces oscillations, c'est justement cette distance caractéristique. Et donc on se dit, ben, peut-être qu'en observant des galaxies, en regardant à quelle distance elles sont les unes des autres, on est capable de remesurer cette distance caractéristique. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça nous donne des informations géométriques, et c'est extrêmement utile, entre autres, pour mesurer l'accélération de l'expansion de l'univers. Et c'est un des objectifs du programme Euclide que Clotilde vous a présenté en début d'après-midi. Et donc on le fait, et ça marche très bien. Et on va y revenir. Et ça, c'est encore une fois en excellent accord avec les données de Planck. Donc les données de Planck sont en gris, et les données de ces oscillations baryoniques, c'est tous ces points données, du moins c'était ça à l'époque où Planck a donné ses résultats. Donc on a un très bon accord avec beaucoup de choses qui font que, bon, on se dit, bon, Planck a... Ah zut, j'aurais pas dû revenir là. Planck a de bonnes chances de ne pas s'être trompé. Mais il y a une autre façon de vérifier que Planck ne s'est pas trompé, c'est d'aller voir les autres observations du rayonnement de fond cosmologique. Parce qu'à vrai dire, depuis Planck, les choses ont beaucoup évolué. Et on a continué à réobserver le rayonnement de fond cosmologique pour encore améliorer les données obtenues par Planck, en particulier avec les télescopes au sol. Et je voudrais vous parler de deux télescopes au sol, l'Atacama Cosmology Telescope ici, qui était dans le désert de l'Atacama, et le South Pole Telescope, ici, qui est au pôle sud et qui prend actuellement des données. Donc l'Atacama Cosmology Telescope, il a commencé à prendre des données alors que Planck était en vol. Il a accumulé des données et il a livré récemment ses résultats finaux. Ce télescope n'existe plus, il a été démonté, il est remplacé par d'autres choses. Il a observé toute la zone du ciel qui est en rouge, donc pas tout le ciel comme Planck. Et on peut regarder sur ces courbes ici comment il se compare à Planck. Alors il ne voit pas tout le ciel, donc il ne voit pas les grandes échelles. Je ne vous ai pas expliqué exactement ces courbes-là. Ces courbes-là, c'est ce qu'on appelle des courbes de spectre de puissance, en harmonique sphérique. Et ces spectres de puissance, en fait, c'est comme si on regardait la probabilité que si on voit un point chaud dans cette direction-là, on voit un point chaud dans cette direction-là. Ou si on voit un point froid, on voit un point froid dans cette direction-là. Et ce qui est en bas là, de cette courbe-là, c'est la distance entre les deux points qu'on est en train de regarder. Mais évidemment, comme on ne fait rien comme il faut, au lieu de montrer la distance, donc quelque chose, plus on est à droite, plus on s'est éloigné, on préfère, pour des raisons d'analyse assez claires, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, les mettre à l'envers. Et donc, plus on regarde à droite, plus on est en train de regarder des petits écartements, et plus on regarde à gauche, plus on est en train de voir des grands écartements. Ceci étant dit, Planck voit tout le ciel, donc il voit toute la courbe, jusqu'à un moment où le fait qu'on ait un miroir qui fait seulement 1,50 m et qu'on ait seulement une centaine de pixels, on va être limité par le niveau de bruit et par la résolution du télescope. Au sol, on peut avoir des télescopes qui vont jusqu'à 6 mètres pour le télescope qui est au pôle sud. On a de bien meilleures résolutions et on peut mettre jusqu'à 150 000 détecteurs aujourd'hui au pôle sud. Pardon, 150 000, j'aimerais bien 15 000 détecteurs, pardon, au pôle sud. Donc on a beaucoup plus de pixels. Ce n'est pas encore votre téléphone portable, mais c'est beaucoup plus. Et donc on a du coup accès à des beaucoup plus petites échelles. C'est la partie droite de la courbe que ne voit pas Planck. Mais ceci étant dit, vous voyez l'accord excellent qu'on a entre ces deux jeux de points. On peut même voir ce même accord ici à droite. Alors c'est à peu près la même courbe cette fois-ci, mais ça, c'est la caractérisation statistique de la reconstitution de la matière dans l'univers, qui est due à la reconstitution de l'effet de l'antigravitationnel. On a reconstruit les déformations de notre carrelage, soit avec les données de Planck, et ça c'est en jaune, soit avec les données de l'Atacama Cosmology Telescope et ces données en rose. Encore une fois, on a un excellent accord. Cet accord, il va plus loin, c'est encore un excellent accord si on regarde au niveau des paramètres cosmologiques, donc ça c'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une façon graphique de voir quelle est la valeur et la probabilité de cette valeur, les barres d'erreur, si vous voulez, de chacun de ces paramètres, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qui est important c'est de voir à quel point ces ellipses sont les unes sur les autres. Et on a vraiment un accord excellent. Et la chose surtout que je voulais vous montrer, c'est ici en bas à gauche, vous voyez en jaune la valeur de la constante de Hubble que veut Planck, en bleu, celle que veut Act, et en rouge, évidemment, quand on combine les deux, on est au milieu. Et vous voyez qu'il n'y a absolument aucune différence. En tout cas, si Planck a tort, Act a tort aussi. Et puis on peut rejouer la même chose avec ce deuxième télescope, qui est le South Pole Telescope, qui est un beau télescope qui est au pôle sud, qui m'intéresse particulièrement, parce que vous voyez là-haut, il y a un logo qui me plaît beaucoup, c'est celui de l'IAP. L'équipe dans laquelle je travaille contribue à l'analyse des données du South Pole Telescope. Et ce que je vais vous montrer, c'est l'analyse juste de cette petite zone verte ici. À terme, on ira voir toute la zone qui est en rouge. Donc, en gros, un gros quart du ciel. Ça, c'était la courbe, la comparaison entre Planck et Act. Voilà la même chose quand on rajoute par-dessus les données de SPT. Vous voyez que les barres d'erreur sont de plus en plus petites. Le télescope SPT et la caméra SPT est nettement mieux que la caméra de Act. Et le SPT est juste au début de ces observations. On a un accord excellent dans tous les cas. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a une contribution de chacune de ces expériences qui est très complémentaire. Ces courbes-là, un peu compliquées, vous expliquent où est-ce qu'on est en train d'obtenir de l'information. Les courbes vertes vous montrent l'information qui a été obtenue par Planck. Vous voyez qu'elles sont plutôt à gauche. Donc c'est pareil, les grandes échelles. La courbe jaune, c'est celle de ACT, les échelles intermédiaires. La courbe bleue, c'est celle de SPT, les échelles encore plus petites. En fait, le but du jeu, ça serait d'avoir une courbe qui est la plus haute possible partout. En additionnant ces données les unes aux autres, on obtient de plus en plus d'informations sur la dimension cosmologique. Et quand on combine toutes ces données ensemble, non seulement on se rend compte qu'elles sont A, en excellent accord les unes avec les autres, c'est encore une fois ce qui est montré ici, vous voyez que toutes ces ellipses qui correspondent aux contraintes sur la constante de Hubble pour les différentes expériences ou les différentes combinaisons entre les expériences sont bien les unes sur les autres. Et on voit de nouveau cet écart avec la mesure locale de la valeur de la constante de Hubble qui non seulement ne bouge pas, mais en plus de ça devient de plus en plus grave puisque les barres d'erreur se réduisent de plus en plus. Alors, ça c'est très bien, mais donc, puisque du temps a passé, qu'on a des nouvelles données du CMB, peut-être voir s'il y a peut-être de nouvelles données aussi des autres expériences complémentaires. Et c'est pour ça que je voulais revenir justement à ces histoires de BAO. Tout à l'heure, je vous ai dit, à l'époque des résultats de 2020 de Planck, les BAO, donc la distance caractéristique entre les galaxies et les mesures du rayonnement de fond cosmologique, étaient en parfait accord. Vous avez vu que les barres d'erreur, ces courbes étaient très très grandes. On pouvait faire beaucoup mieux. Et on a envie de faire beaucoup mieux. Entre autres, je vous l'ai dit, Euclide va faire beaucoup mieux. Et la raison pour laquelle on a envie de faire beaucoup mieux, c'est que ça, c'est une information géométrique qui nous donne des informations directes sur l'histoire de l'expansion de l'univers et donc sur les propriétés fines de l'énergie sombre dont Schmidt, Perlmutter et Ries ont montré qu'on avait besoin, mais sans nous dire exactement quelles sont les propriétés fines. Parce que là encore, c'est un nouveau modèle, on peut inventer plein de choses différentes. Pour améliorer ça, un télescope en Arizona est en train d'observer avec une caméra qui s'appelle DESI, le Dark Energy Spectroscopic Instrument, la position très précise de millions de galaxies. Pour observer la position et le décalage vers le rouge très précise de ces galaxies, ben, faut savoir où elles sont. Et puis, il faut connaître leur décalage vers le rouge. Pour connaître leur décalage vers le rouge, il faut faire leur spectre. Pour faire leur spectre, il faut observer une galaxie avec un spectromètre. Avant, la façon dont on faisait ça, c'est qu'on mettait un spectromètre qui observait une galaxie. Donc, il fallait prendre le télescope, pointer une galaxie, attendre longtemps, mesurer le spectre très précisément, puis passer à la suivante. C'était très, très, très lent. Après, on a fait plus malin. On s'est dit, bon, dans le télescope, on peut mettre plusieurs fibres avec plusieurs spectromètres. Alors, on prenait des plaques, puis on faisait des trous à l'endroit où on savait qu'il y aurait des galaxies. Donc, il fallait d'abord observer le ciel, voir les galaxies qu'on voulait voir, faire des plaques, faire des trous, mettre des fibres optiques, amener chaque fibre à un spectromètre et recommencer. Ça consommait énormément de thésards, parce qu'il fallait beaucoup de thésards pour faire des trous, mettre des machins, etc. Non, mais vous rigolez, mais non, mais alors, pas que des thésards, il y avait aussi des permanents et des post-docs, mais c'était beaucoup de gens. Et alors maintenant, évidemment, on est à l'époque de l'intelligence artificielle et des robots. Et là, on a inventé ce truc complètement fou. Ce que vous voyez là, cette forêt là, c'est une forêt de doigts robots. Et ces doigts robots peuvent bouger un peu comme ça, ou un peu comme ça. Et dans chacun de ces doigts robots, il y a une fibre optique. Et donc, on a observé le ciel, on a fait des cartes du ciel, et puis à partir de ces cartes du ciel, on a programmé des petits déplacements des doigts robots, si bien qu'ensuite, quand on pointe, pouf, le petit doigt robot, il s'arrange. La plupart ne sont pas utiles à chaque fois, bien sûr, mais énormément sont utiles, et ça nous permet d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et quand on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, vous allez voir qu'on peut réduire énormément les barres d'erreur qu'on a vues tout à l'heure. Ce qui est montré ici, en fait, c'est, une façon de voir ce résultat en regardant eh bien, la même chose que je vous montrais tout à l'heure quand je vous montrais cette grande barre à travers plusieurs boîtes qui nous expliquait qui nous disait ben ça c'est une reconstruction de la loi de Hubble. Ça c'est une reconstruction de la loi de Hubble à partir de ces mesures de distance caractéristique de galaxies à différentes époques. Chacune de ces flèches là, c'est j'ai pris toutes les galaxies qui sont à une certaine distance de moi et j'ai regardé le lien entre leur décalage vers le rouge et leur distance. Et je l'ai affiché là. Donc ça veut dire qu'on a vu plein de galaxies sur le ciel, et pour chacune de ces galaxies, on a vu leur décalage vers le rouge et leur distance, et on a sélectionné ces galaxies en fonction du décalage vers le rouge et leur distance, pour faire des petites, comme imaginez un oignon, sur chaque tranche d'oignon, on a regardé les galaxies et à quelle distance elles sont les unes des autres. Et on a cette reconstruction qui est complètement folle. Vous voyez, il y a énormément de tranches, énormément d'informations. Et pour chacune, on a observé cette distance caractéristique entre les galaxies. Et cette distance caractéristique, elle se manifeste ici par cette bosse que vous voyez. Vous voyez qu'il y a un signal monstrueux là-dedans. S'il n'y avait pas cette distance caractéristique de l'écart entre les galaxies, vous verriez un truc qui est une pente comme ça. Là, vous voyez une belle bosse. On la détermine avec beaucoup de précision. C'est vous dire à quel point cette mesure est très, très mûre. Et souvenez-vous que cette mesure, c'est essentiellement la même chose que ce que mesure le rayonnement de fond cosmologique. Puisqu'on est en train de dire la distance entre les points chauds et les points froids du rayonnement de fond cosmologique, c'est cette distance caractéristique-là qui est encodée dans la distance caractéristique des galaxies. C'est juste plus tard, après que la gravité ait pu construire des galaxies, etc., etc. Ça suppose un modèle d'univers, ça suppose une expansion de l'univers, ça suppose un fonctionnement de la gravité tel qu'on le connaît. Mais c'est la même chose. Si on connaît tout ça, on doit avoir la même chose. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces données-là, puisqu'elles regardent la même chose que le rayonnement de fond cosmologique, puisqu'elles peuvent reconstruire le modèle cosmologique un peu comme le rayonnement de fond cosmologique, est-ce qu'elles nous donnent une valeur de constante de Hubble qui est comme celle des, de nos galaxies proches, de nos CFE, de nos supernovae, ou pas? Et en fait, la valeur qui est là, c'est quasiment la même que Planck. Ces mesures ne sont pas aussi précises que celles de Planck et que celles de SPC et celles de ACT, mais c'est exactement la même valeur. On a un désaccord entre ces mesures qui consistent, encore une fois, à ne pas mesurer directement la constante de Hubble, mais à mesurer tous les paramètres de l'univers, et à partir de ça, d'en déduire quelle devrait être la valeur de la constante de Hubble aujourd'hui. Donc, avec ces galaxies, qui sont quand même plus proches que nous, de nous que le rayonnement de fond cosmologique, mais qui sont quand même très loin par rapport aux galaxies qu'on utilise pour mesurer la constante de Hubble, on a le même problème. OK. On avait donc un accord. Il va revenir. J'aurais pas dû le mettre. C'est bon. La blague est ennuyeuse très vite. OK. Et maintenant, la question, c'est est-ce que le très bon accord qu'on avait tout à l'heure, je vous le remonte pas, il survit quand on a beaucoup réduit les barres d'erreur des mesures de BAO. Et alors là, contrairement à ce qui s'est passé pour le CMB, on a réduit les barres d'erreur pendant 25 ans, qu'on trouvait toujours le même modèle. Là, on a une surprise. La ligne grise, enfin la barre au milieu et la ligne grise autour, c'est toujours les données du CMB. Donc c'est Planck, plus maintenant on a aussi ajouté une partie des résultats de ACT. Ça, c'est un résultat qui a été fait avant que ACT et SPT et donner leurs résultats récents dont je vous ai parlé. Mais bon, ce n'est pas très différent. Les points gris qui sont là, c'est les points qu'a obtenu Daisy. Souvenez-vous, le coup d'après, avec le bonhomme là qui observe et qui gigote, tous les points, ils étaient aux erreurs près, en accord avec la ligne au milieu. Là, vous voyez qu'on commence... Alors, ce n'est pas des désaccords très flagrants. Mais quand même, il y a vraiment un truc qui ne colle pas. À vrai dire qu'on pourrait imaginer d'autres modèles, et là, c'en est un particulier qui est particulièrement intéressant, qui est présenté par cette ligne rouge, qui, visuellement, aurait un bien meilleur accord avec les données grises. Ce modèle rouge, il propose une extension du modèle classique. On peut le voir d'une autre façon, et cette fois-ci, on est en train de comparer directement les prédictions les résultats du rayonnement de fond cosmologique avec les résultats de DESY. DESY maintenant est présenté par cette ligne grise ici, donc c'est pour un couple de paramètres. Ce sont les paramètres qui sont les mieux contraints par DESY, essentiellement puisqu'on est en train de voir la distance entre ces blobs. Ça évolue au cours du temps, entre autres en fonction de la gravité, donc si ça évolue en fonction de la gravité, ça évolue en fonction de la quantité de matière dans l'univers. C'est ce que représente cette valeur oméga m ici. Et ce HRD qui est là, c'est tout simplement à quelle distance on était au début. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez simple. Ces deux choses-là sont extrêmement couplées. Vous voyez que des i, en fait, mesurent un mélange entre ces deux choses-là, tandis que le rayonnement de fond cosmologique, c'est toutes les couleurs qui sont ici, avec les différentes expériences ensemble, mesurent un autre mélange entre ces deux données-là. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord. Vous voyez la taille des barres d'erreur. Ce n'est pas encore trop grave, mais tout de même. On est quasiment à la limite où ce désaccord est statistiquement pertinent. C'est-à-dire que là, tel qu'on est aujourd'hui, on commence à sentir une nouvelle tension qui n'existait pas avant. On est dans un cas où ça peut arriver, mais ça serait vraiment un univers où on n'a pas beaucoup de chance. C'est comme si je lance trop de fois un 1 sur mon dé. Est-ce que mon dé, il est pipé? Ou est-ce que c'est juste pas de chance? On est vraiment à cette époque et à cette limite. Et quand on a ça, eh bien, on peut évidemment commencer à se poser la question de... Encore une fois, est-ce qu'il y a une extension modèle? Alors l'extension modèle la plus naturelle, c'est celle de la ligne rouge que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est de supposer qu'on a une énergie sombre qui a des propriétés particulières. Alors ça, c'est bingo. Donc là, on n'a pas encore une détection. Si on avait une énergie sombre, tout ce qui est plus classique, une constante cosmologique, on s'attendrait à être là-haut, là, à l'endroit où les lignes pointillées se croisent. Ça, c'est le modèle le plus simple dont je vous parle depuis tout à l'heure. On aimerait bien avoir un modèle un peu plus compliqué. Ce n'est pas un modèle qui va expliquer notre problème sur la constante de Hubble, mais c'est ce pourquoi une expérience comme DESY ou ce pourquoi une expérience comme Euclid a été construite, et on est très content d'avoir quelque chose qui est un peu différent. La valeur ne nous plaît pas beaucoup, c'est des modèles qui ne sont pas rigolos, mais enfin un peu compliqués d'un point de vue théorique, on aurait préféré un modèle plus simple, mais cela étant, c'est bon signe. Ça vient de ce désaccord entre le rayonnement fond cosmologique et la distance caractéristique des galaxies qui sondent la même chose à différentes époques. Alors ce modèle, il pourrait marcher, mais malheureusement, il y a aussi tout un tas d'autres modèles, alors qu'on présente ici des modèles non physiques. Le premier, ça c'est un modèle non physique qu'on utilise très souvent pour tester la validité de notre analyse. Et là, quand on met ensemble les données du rayonnement de fond cosmologique et de DESY, eh bien on a des choses très différentes. Le rayonnement de fond cosmologique voudrait être là où il y a l'étoile, DESY veut être là où il y a la zone grise, et donc la combinaison entre les deux nous donne des trucs bizarres. Le modèle d'à côté, c'est un modèle où on rajoute des neutrinos en plus, pareil, on trouve un nombre de neutrinos qui est bizarre. Le modèle d'à côté, c'est un modèle d'univers qui n'est pas plat. Donc on est vraiment à l'aube, peut-être, d'un nouveau modèle cosmologique qu'il va vraiment falloir utiliser. Donc je crois que je vais m'arrêter ici. C'est la fin de ce que j'avais à vous présenter. Donc on a eu une époque absolument folle d'amélioration incroyable de notre connaissance et notre compréhension du modèle d'univers, 25 ans pendant lesquels le modèle d'univers le plus simple, dit lambda CDM, avec une énergie sombre, très simple, une constante cosmologique, de la matière noire, et des ingrédients très simples autour du Big Bang, fonctionnait incroyablement bien. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a des mesures de rayonnement de fond qui continuent à s'améliorer, qui veulent que ce modèle soit leur meilleur modèle, et puis des mesures des proches qui nous disent qu'on a un problème sur la constante de Hubble, et des mesures entre les deux qui nous disent de plus en plus qu'on a peut-être un modèle plus compliqué et une physique plus riche à explorer. Tout ça, ça va évidemment être amélioré énormément par Euclid. Vous voyez en bleu, là où on est DESY, ce que va pouvoir faire DESY, et en rouge, ce que va pouvoir faire Euclid. Plus on est en haut à droite de cette courbe, de ce graphe, plus on a des informations et plus on est heureux. Vous voyez que SPT, ici le South Pole Telescope, va observer toute cette zone en rouge. Et si vous regardez la courbe en pointillé la plus haute là-haut, sur chacun de ces images, ça vous dit la quantité d'informations qu'on va obtenir, la courbe en noir étant l'information qu'on a déjà obtenue par Planck. Vous voyez qu'on va encore et encore et encore améliorer notre connaissance sur le rayonnement de fond cosmologique et réduire encore plus ces contraintes, donc accentuer les petites tensions qui commencent à poindre, ou alors montrer qu'on s'est trompé énormément. Après SPT, il y aura le South Pole Telescope, qui vient d'avoir sa première lumière, qui est construit au même endroit où était auparavant ACT. Donc ACT a été détruit, et à la place de un télescope de ACT et de quelques télescopes, quelques télescopes d'une autre expérience. On a maintenant trois télescopes de la taille de Hackt, plus un énorme qui est quasiment aussi gros que celui de SPT. Et puis du côté des constantes de Hubble, on a aussi plein de nouvelles façons, mais je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans les détails, d'améliorer ça. Donc on va en savoir beaucoup plus dans les 10-20 prochaines années, ça va vraiment être chouette. Voilà, merci de votre attention, et désolé pour les problèmes au début où ça ne marchait pas très bien. Pas de questions. Question là-bas.
Vous avez parlé du modèle et des mesures des distances de galaxies. Mais on ne remet pas en cause les mesures qui ont été faites, parce qu'on a remis en cause le modèle d'un côté, mais pas les mesures qui ont été faites.
Alors, justement, ça c'est l'intérêt de ces. Donc, ça c'est pour l'observation de la constante de Hubble avec les données proches. Alors, oui, un des enjeux, c'est que ces mesures reposent donc sur ce système de calibration très compliqué. On mesure des distances très proprement pour en déduire les propriétés fines des céphéides. Évidemment, il n'y a jamais rien qui se comporte exactement comme on l'espère, donc il y a des petites variations. Puis à partir de ces mesures fines des céphéides, on calibre les distances des supernovae, etc., etc. Le point critique entre les deux, c'est qu'on n'a pas tant de céphéides que ça à disposition. C'est ce qu'on voit ici, en fait. Dans le deuxième barreau, le premier barreau de cette calibration, on n'a pas beaucoup de céphéides, et dans le deuxième barreau, l'endroit où on utilise les céphéides pour calibrer les supernovae, à ces deux endroits-là, on n'a pas beaucoup de céphéides et on n'a pas beaucoup de mesures pour calibrer. Et donc au final, si on fait une petite erreur ici, ça va nous donner une très grande erreur là-haut, et comme le gros de notre contrainte va venir de ce qui vient là-haut, on va être embêté. Et donc une des options pour améliorer ça, c'est par exemple d'utiliser ce qui s'appelle, alors c'est assez technique, mais les étoiles rouges massives ont une luminosité maximum. Elle ne peut pas être plus lumineuse qu'une certaine luminosité intrinsèque. Et ceci, on sait le calculer en fonction de leur couleur précise. C'est les courbes qu'on voit là-haut. Les courbes qu'on voit là-haut, c'est différentes histoires de la vie des géantes rouges. Donc leur couleur en fonction de leur luminosité. Et vous voyez que elles arrivent jusqu'à un certain point, puis après elles redescendent. Et donc, il y a une luminosité maximale. Ça veut dire que si on observe plein de géantes rouges, alors c'est ce qu'on essaie de faire là, on observe plein d'étoiles, certaines sont des géantes rouges, d'autres pas des géantes rouges, mais on sait détecter quelles sont des géantes rouges, on doit avoir une limite qui suit ces différentes histoires. Donc il y a un endroit où ça s'arrête, ça fait des espèces de droites, ça ne peut pas aller plus haut. Et donc si on mesure à quelle hauteur c'est, eh bien on est capable de mesurer la luminosité maximale, donc on a mesuré une luminosité apparente, on est capable de relier ça à une luminosité vraie. Si on a une luminosité vraie, on a une distance luminosité, on a la distance de notre galaxie. Et on essaie d'utiliser ce genre de choses-là pour recalibrer ce second barreau qui est ici. Le résultat de ce recalibrage, c'est ce point ici, CCHP, pour Carnegie, Chicago Calibration Program, quelque chose comme ça, qui fait donc cette calibration, qui n'utilise pas des céphéides et qui utilise à la place cette luminosité maximale des géantes rouges. C'est assez compliqué. Ce point est un peu vieux, il a été recalculé, il s'est un peu déplacé vers la droite, et les barres d'erreur sont encore assez grandes par rapport à ce qu'on a avec les céphéides, mais oui, on essaie d'améliorer ça. Et puis il y a d'autres voies d'amélioration aussi assez compliquées. Oui, on travaille aussi de ce côté-là. Et oui, c'est un enjeu clair.
Bonjour, merci pour cet exposé. Est-ce que le modèle standard inclut aussi la valeur de la constante cosmologique?
Alors, oui, ce que le modèle standard nous dit, il nous dit qu'il faut qu'il y ait une constante cosmologique, et il faut qu'elle ait... Alors, si je veux... Est-ce que je peux revenir à ça très vite? Début. Toc. On va y arriver.
Ils sont où nos amis les supernovés? Voilà, le voilà. Vous voyez, dans nos mesures, on dit que notre univers aujourd'hui, il doit contenir à peu près un peu moins de 70% d'énergie sombre. Donc ça nous donne la valeur. Si c'est une constante cosmologique, ça nous donne directement sa valeur aujourd'hui. Sa valeur tout le temps si c'est une constante. La question, c'est est-ce que dans le passé, il nous fallait aussi autant d'énergie sombre qu'aujourd'hui? Ça, c'est une question qui est ouverte. Et c'est justement l'enjeu des mesures d'Euclide ou de Désy.
Est-ce que d'ailleurs la valeur, je crois que c'est ce qu'on appelle la catastrophe du vide, c'est compris d'une valeur beaucoup plus grande que la réalité. Est-ce que, enfin, on a trouvé des manières de régler
donc cette énergie sombre. Donc on est des cosmologues. Donc on vient d'une histoire scientifique très vieille où on faisait des épicycles. Donc on voit des trucs dans l'univers et là on dit ah zut, le modèle ne marche pas. Parce que les épicycles, c'est vachement bien, en fait. Le modèle ne marche pas. Aucun modèle ne marche. Les modèles ne sont que des approximations. Et donc, le truc, c'est, puisque le modèle ne marche pas, quel est le nombre d'ingrédients minimal que je peux rajouter pour que le modèle marche? Et donc là, l'ingrédient minimal que je peux rajouter pour que le modèle marche, c'est une énergie sombre. Ouais, j'ai gagné, j'ai plus de problème. C'est comme l'inflation, au début, je vous dis, il faut un machin qui fait étendre. C'est le modèle minimal. Mais je ne sais pas ce que c'est. Et la matière noire, ça marche super bien, mais je ne sais pas ce que c'est. Et derrière, il y a nos pauvres amis physiciens des particules, ils me disent « Ah mais non, mais moi je veux savoir ce que c'est. » Alors moi aussi j'aimerais bien savoir ce que c'est, évidemment. Et pour l'instant, mon modèle, il marche. Je suis content. Maintenant, il va falloir que je sache ce que c'est. C'est pour ça que je veux connaître les propriétés d'énergie sombre, évidemment. Mais donc, nos amis physiciens des particules disent « Ah, ça tombe bien, votre constante cosmologique. » Bon, les constantes, c'est nul, ça, c'est l'histoire de constantes d'intégration. Ça n'existe que dans les théories mathématiques. L'univers n'est pas une théorie mathématique. Il faut donc bien qu'il y ait quelque chose qui explique ce truc-là. Et ils nous disent « Ah, mais moi, j'ai un truc qui a exactement les bonnes propriétés, l'énergie du vide. » Très bien, c'est une énergie du vide. Ah oui, mais l'énergie du vide, elle ne vaut pas ça. Parce que l'énergie du vide, il faut qu'il y ait un vide. Alors, c'est soit le vide électromagnétique, soit le vide d'énergie faible, soit le vide de la grande unification. Et il n'y en a aucun qui correspond. Vraiment aucun. Et si on prend une valeur typique d'unification des forces, on est à plus de 100 ordres de grandeur de différence. Et nos amis théoriciens s'empaillent entre est-ce que c'est 100, 140, 40 ordres de grandeur. Franchement, on s'en fiche. Ça ne colle pas. Il faut autre chose. C'est pour ça qu'il faut Désy et Euclide.
Merci.
Oui.
Mais déjà au départ, on dit que l'univers est né dans un état très 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 chaud, très 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 énergétique, et de l'autre côté, il faut qu'il soit à la fois très ordonné.
Alors, justement,
déjà, on parle d'un truc, j'ai l'impression que...
C'est justement cette période au tout début d'inflation, donc je vous ai dit une expansion extrêmement accélérée, très 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 rapide, qui nous a permis d'homogénéiser l'univers. Et là, il nous faudra encore une heure pour en parler. Et on me fait signe que j'ai débordé dans tous les sens.